I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Soa est la maman expatriée d'une petite fille à Abu Dhabi, loin de ses proches et de l'univers qu'elle a toujours connu. Elle n'avait pas forcément envie d'y habiter au départ, elle n'avait pas vraiment envie de devenir maman non plus tout de suite. Sa maternité lui aura fait perdre son travail et également sa joie de vivre pour un moment. C'est ce qu'on appelle la dépression postpartum. Dans cet épisode, Soa nous raconte sa grossesse à Abu Dhabi, comment elle a vécu puis soigné sa dépression. Elle nous parle aussi de l'éducation d'une petite fille dans une contrée où l'égalité des sexes est encore loin d'être acquise. Bonne écoute. Bonjour Soa, merci beaucoup de me raconter ton histoire dans ce nouvel épisode.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors tu vis à Abu Dhabi, Comment tu es arrivée dans ce pays ?
En fait c'est complètement par hasard et j'avais pas du tout envie d'y aller. Quand j'ai rencontré mon mec Vincent, on a cherché un job à l'étranger. D'abord, on est parti voyager, on est parti à Bali, on a passé tout un hiver là-bas, on a fait des allers-retours avec Singapour parce qu'on s'est quand même dit que ce serait pas mal de trouver un job là-bas. On n'a pas trouvé, on a atterri ensuite à Tokyo, on a cherché un boulot. Le but, c'était de s'installer à Tokyo et il a trouvé une opportunité pour Abu Dhabi. On a discuté, je me souviens, il est rentré, on dormait chez un copain, il est rentré, il dit « Ah, c'est trop bien, le chasseur de tête m'a recontacté, c'est bon, j'ai trouvé un job, j'ai une super, je le sens bien. » Je dis « Ah, trop bien, c'est cool, c'est quoi, c'est un fonds d'investissement à Tokyo ?»« Mais non, à Abu Dhabi, quoi ? Où ça ? Non !» Et là, c'était un peu compliqué. Mais finalement, on y a été, et j'ai trouvé un job aussi, ça s'est bien passé, donc on y est encore, et on va rentrer bientôt, je pense.
Et alors, tu es maman d'une petite fille ?
Ouais, Héloïse.
Quel âge elle a ?
2 ans et demi.
Comment est venu le désir de maternité chez toi ?
J'ai pas du tout pensé quand j'étais petite. Je jouais pas à la poupée, je jouais pas au papa et à la maman, ça me passait au-dessus, ou je sais pas, ça m'intéressait pas. Et puis ma petite sœur est née quand j'avais 15 ans, et à partir de là, mon père était pas très présent, donc j'ai joué un peu le rôle de deuxième parent. Ma mère avait 42 ans, donc elle était vraiment fatiguée, elle avait vraiment besoin d'aide, donc j'ai fait les biberons la nuit, les rendez-vous chez le pédiatre. Je n'ai pas consolé pour les dents, changer les couches. Et je me suis dit, en fait, je n'aurai jamais d'enfant. C'est horrible, c'est affreux. Non, mais vraiment, ça prend beaucoup trop de temps. Ou j'adopte un gamin de 25 ans, tu vois. Genre déjà indépendant, qui a tout. Mais vraiment, j'avais pas du tout envie. Et puis après, j'ai une première longue relation de 5 ans. Et je me suis dit, oh, je sais pas, peut-être, mais ça ne m'a pas effleuré plus que ça un jour, quand je serai vraiment grande. Et quand j'ai rencontré Vincent, il est très direct et très rapidement, il m'a dit, ok. Alors moi, plus tard, je veux des enfants. Tu veux des enfants ou pas ? Parce que sinon, moi, on peut tout arrêter là maintenant, tu vois. Je comprends, mais je veux être sûre, tu vois. Et du coup, j'étais obligée de me poser la question. J'avais 26 ans. Et je me suis posé la question et je me suis entendue répondre « si, un jour ». Mais vraiment du bout des lèvres, quoi. Donc c'est venu avec Vincent.
Ouais. Et le moment de prendre la décision, du coup, de devenir maman ?
En fait, lui, je pense que à partir du moment où on est tombé amoureux, qu'on s'est dit qu'on est parti en voyage, je pense que je lui aurais dit demain j'arrête la pilule, je suis prête, il aurait fait ouais, trop bien. Mais moi, j'étais pas prête parce que je voulais avoir un job stable, je voulais avoir mes revenus, je voulais être sûre de pas dépendre de quelqu'un. Maintenant, j'en ris beaucoup, enfin, bref, je te raconterai après. Mais j'avais besoin d'attendre un peu et je voulais aussi qu'on profite que tous les deux. Je trouvais ça important d'apprendre à mieux le connaître parce que je voulais être sûre que ce serait un bon papa. Et je voulais aussi voir comment nous on serait parce que je trouve que c'est dur d'avoir un enfant et je voulais qu'on soit solide et qu'on ait des moments que à nous, se souvenir qu'on a été un couple avant d'être des parents aussi. Du coup, ça m'a pris deux ans et demi. Et puis un jour, à 28 ans, je lui ai dit, écoute, en fait, je suis prête et pour son anniversaire, je vais faire ma plaquette de pilules qui s'est terminée exactement ce jour-là. Donc j'ai entouré le jour, je dis, tiens, c'est bon, je suis prête.
Et alors, comment s'est passée ta première grossesse ?
Écoute, plutôt bien, comme ci, comme ça. Je me suis rendu compte que j'étais enceinte, j'étais super contente. Ma première inquiétude, c'était qu'on revenait d'un mariage de potes en Pologne et qu'on avait bu, mais comme des trous. Genre, je crois que j'ai jamais autant bu de ma vie, j'ai bu 14 shots de vodka. Ouais. Le mec en a bu genre 30, mes potes aussi. Enfin, je comprends pas comment on a tenu, mais on a très bien tenu. Je me suis dit, notre gamin va être débile. Et en fait, non, pas du tout. Et j'ai eu beaucoup de nausées. Je buvais plus d'eau, donc j'étais déshydratée. Donc j'arrivais à boire que de l'eau de noix de coco. Donc tous les matins, enfin à Abu Dhabi, noix de coco, c'est pas très cher. C'est pas comme en France. T'en trouves vraiment pour pas cher. Donc on faisait des énormes stocks, on les mettait au frigo. Et tous les matins, Vincent m'ouvrait des noix de coco avec une machette, parce que je suis très maladroite. Et je les remplissais dans ma gourde et je partais au boulot avec. Et du coup, je buvais ça. Et sinon, j'arrivais à rien boire d'autre pendant les 3-4 premiers mois. Après, c'était mieux. Et en fait, j'ai été alitée à partir du 6e mois, et du coup, j'ai même carrément dû arrêter de bosser, et après, j'ai juste rien fait pendant le dernier trimestre, c'était long.
T'étais alitée pour quelle raison ?
Parce qu'en fait, il y avait un risque d'accouchement prématuré, donc en fait, mon col s'ouvrait trop, était hyper fin, super souple, et du coup, il fallait que je bouge le moins possible, parce que sinon, elle allait être prima, quoi.
D'accord.
Et du coup, j'ai découvert Netflix, j'ai commencé à tricoter, à broder, j'ai lu plein de trucs, j'ai commencé à faire des photos, enfin... J'ai meublé en étant allongée. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire allongée.
Et alors, comment ça se passe une grossesse à Abu Dhabi ?
C'est ultra médicalisé. C'est-à-dire que tu as un rendez-vous tous les mois, que tu fais une échographie, mais tu peux en faire 15, que dès qu'il y a le moindre souci, genre tu éternues, on va te faire un double check. Enfin, c'est surmédicalisé parce qu'ils sont flippés, ça marche à l'américaine. Donc, s'il y a un truc qui se passe mal, tu peux vraiment les attaquer et machin. Et aussi parce que là-bas, le médical, c'est un vrai business. Ce qui veut dire qu'ils te facturent un maximum parce que eux, ça leur apporte de la thune. Donc bon, forcément, nous, les médecins qu'on a trouvés, c'était pas le cas, c'était pas le but, mais ils suivaient le protocole parce que, voilà, une écho tous les mois, un rendez-vous tous les mois. Et avec les problèmes que j'ai eus, à la fin, à partir du 6e mois, je voyais mon médecin toutes les 2 semaines. Et à la fin, elle voulait me voir toutes les semaines parce que c'était trop chaud. Mais du coup, c'était... Tu vivais comme presque t'es malade alors qu'en fait, tu l'es pas. Et du coup, je trouve que c'était vraiment que le côté scientifique, du genre, est-ce que votre bébé grandit bien, est-ce que vous prenez assez de poids, est-ce que... Il n'y avait pas trop de magie, en fait. J'ai trouvé ça un peu étrange. Après, en fonction de la période de l'année, t'as plus ou moins de chance, parce que l'été, il fait très, très chaud. Bon, allez, 42 le matin quand tu te lèves, et puis ça peut monter jusqu'à plus que 50. Notre premier été, on a dit, il fait chaud, il faisait 50, et ils nous ont dit, non, mais c'est rien, en fait. Donc quand t'es enceinte dans cette période-là, surtout à la fin, c'est dur, ça a une copine à moi. Mais sinon, le reste, c'est plutôt assez facile. Et l'avantage, c'est que si tu as des envies de bouffe ou des dégoûts, comme c'est vraiment hyper international au niveau culinaire, tu peux vraiment trouver tout. Donc moi, j'ai mangé du curry thaï, genre quasiment tous les jours. Pendant 3 mois, mon mec, il n'en pouvait plus. Mais ça, c'était facile. Et après, t'as un côté où ils sont hyper paternalistes, forcément, dans la culture, hein, c'est pas super féministe. Et du coup, ils voient la femme comme une princesse. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être comme certains pays où la femme est dévalorisée. On n'est rien. Là, c'est elle est tout. Mais en fait, si tu veux, entre guillemets, elle est tellement trop qu'ils vont la surprotéger. Et du coup, il faut qu'elle soit dans une espèce de cage dorée. Donc, c'est tout aussi chiant, mais c'est un peu moins dur à gérer. Et du coup, quand ils voient une femme enceinte, si tu veux, tu as un côté où c'est genre, oh, elle va procréer, elle va donner la vie. Tu es comme ça, donc ça, c'est plus facile. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est la surmédicalisation. C'est examen tout le temps, les prises de sang tout le temps. C'est chiant.
Et comment t'avais fait pour trouver ton...
Mon médecin ?
Ton médecin, oui.
Alors à la base, j'avais ma gynéco de ville que j'ai trouvée par une collègue copine de mon ancien boulot. Je lui ai dit un jour, bon, ça fait 6 mois que je suis là, il faut vraiment que j'aille voir un gynéco, j'ai plus de pilules. Et qui m'a dit, bah tiens, regarde, il y a elle ou elle qui sont bien et qui est une des références qu'il y a depuis super longtemps à Abu Dhabi. Elle est germano-turque en plus, elle est hyper cool, donc elle a le côté hyper carré comme ça. Mais en même temps, elle te parle dans tous les sens. Elle était vraiment sympa, facile d'accès. Du coup, j'ai tout fait en anglais. Et après, en fait, elle fait pas l'obstétrique. Donc, elle m'a suivi jusqu'à un certain stade. Et à partir de 5 mois, elle m'a dit, écoute, bon, là, faut que tu trouves la personne qui va t'accoucher. Et en plus, avec le problème que t'as, je pense que ce serait bien que t'aies quelqu'un qui puisse vraiment t'accompagner tout le long pour le dernier trimestre. Et du coup, j'ai trouvé une gynéco à Dubaï sur ses conseils à elle. Et aussi parce que je voulais accoucher dans un hôpital en particulier. Du coup, il fallait que je couple les deux. Et cette obstétricienne était juste mais géniale. Elle est top, elle était française, donc c'était aussi plus facile parce que tous les termes médicaux que tu apprends en anglais, c'est bien. Mais sur le moment, quand tu es en train d'accoucher, tu es contente de ne pas avoir à réfléchir et à traduire. C'est pas mal.
Et donc, tu voulais accoucher à Dubaï ?
Ouais, en fait, je voulais pas du tout accoucher à Abu Dhabi parce qu'Abu Dhabi, c'est très classique. Et en fait, tu vas être juste en position gynécologique. Et moi, j'étais complètement phobique de l'accouchement. Une des raisons pour lesquelles je voulais pas avoir d'enfant pendant longtemps, où j'y pensais pas trop, où je disais plus tard, c'est que je ne voulais pas accoucher. Et du coup, pendant ma grossesse, ça a été difficile parce que j'expliquais à mon mec que j'étais pas sûre que j'étais d'accord pour accoucher. Mmh. Sauf que bah, j'étais déjà enceinte, donc il fallait doucement qu'il me fasse comprendre que bah, en fait, il va falloir le sortir, le bébé. Ça va arriver, donc préparons-nous, mais ça va arriver. Et du coup, j'avais commencé à lire plein de trucs. Quand je connais pas quelque chose ou quand j'ai peur, je lis et je me renseigne. Et en lisant, je m'étais rendu compte que si tu veux éviter la déchirure du périnée, l'épisiotomie, et que tu veux essayer de le faire le moins, comment dire, brutalement pour ton corps, le mieux c'est d'avoir une position physiologique. Or, à Abu Dhabi, il y avait très peu d'hôpitaux qui te proposaient de juste avoir la liberté de ton corps et te suivre. Donc, Dubaï, t'as plus d'options par rapport aux hôpitaux que tu peux choisir. Ils te proposent plus de possibilités sur l'accouchement, sur ce que tu veux faire, enfin... Je trouve qu'ils sont plus ouverts et t'as surtout une plus grande variété. Et du coup, j'ai trouvé cet hôpital, je sais plus du tout comment, franchement je sais plus. Mais après des recherches et probablement des recommandations, on m'a dit bah regardez là-bas. Et les obstétriciennes, j'en avais deux. Pour moi c'était forcément une femme, je veux dire, pour moi c'est pareil pour le gynéco. Je respecte les femmes qui vont voir le gynéco, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais alors moi, t'as pas de vagin, tu me touches pas quoi. Genre, ouais. De quoi tu parles? Tu vas me demander de faire quelque chose que physiquement tu ne peux même pas imaginer avoir la sensation parce que t'as pas l'organe. Du coup, c'était forcément des femmes et j'avais pris deux rendez-vous. Et la première que j'ai rencontrée, bah, bingo, elle était géniale, j'ai super accroché. Et en plus, elle était dans le même hôpital. J'ai fait ok, j'ai annulé le deuxième rendez-vous. Et c'est elle qui m'a suivie jusqu'au bout. En plus de ça, elle parlait français, donc c'était un petit plus. Et j'aimais bien parce qu'elle était hyper cash. Et du coup, c'est le genre qui va dire non, mais ça, vous leur dites genre non et vous les envoyez bouler quoi. Ça, on a dit qu'on voulait pas. Du coup, j'avais pas fait un projet de naissance qui était gigantesque, mais j'avais dit ok, moi je pense que potentiellement je veux une péridurale et je ne veux surtout pas d'épisiotomie. Si ça doit se déchirer, on le fait tout seul, mais genre on évite au maximum. Mmh. Si vous pouvez m'éviter d'accoucher, c'est encore mieux. Donc elle avait saisi le truc et jusqu'au bout, elle m'a vraiment aidée pour que je puisse avoir le tout, pour le congé mat aussi, etc. Si on en parle après, enfin vraiment elle était chouette et tu sens que c'est celle qui va se battre pour toi et qui va vraiment avoir tes intérêts à cœur quoi. Donc ça c'était cool.
Et c'est à combien de temps Dubaï d'Abu Dhabi?
C'est à peu près 1h30 en voiture. Tout dépend où tu vas en fait. De chez nous, dans Abu Dhabi, où tu vas à Dubaï et où était l'hôpital, c'était 1h30. Après, c'est les embouteillages, ça peut vite monter à beaucoup beaucoup plus. Ça peut être des fois tu mets 1h30 pour traverser Dubaï, alors que nous c'est le temps qu'on met pour venir d'Abu Dhabi, tu vois. Et du coup, la grande trouille de mon mec, surtout avec mon problème, c'était mais attends, mais tu vas accoucher sur l'autoroute en fait. Et puis moi je sais pas comment je vais faire. Et puis la voiture, elle est pas assez teasée. Et puis attends, mais comment ça va se monter? J'ai fait non, mais on aura le temps. Attends, un accouchement ça dure genre oh, mais des heures et des heures. C'est que dans les films, tu vois, ça va vite. La gynéco qui disait oui, mais faut, vous traînez pas trop non plus. Hein, quand on commence à s'approcher de votre date, vous vous rapprochez de Dubaï. Donc par exemple, on avait passé le nouvel an à Dubaï, pas parce qu'on voulait, parce que si jamais j'accouchais, on savait que toutes les routes seraient bloquées et que je refusais d'accoucher à Abu Dhabi catégoriquement. Donc on a passé le nouvel an le plus kitsch, le plus glauque en même temps, mais le plus drôle, parce que vraiment c'était super chelou. On était à Dubaï et j'ai pas accouché.
Et du coup, vous êtes resté à Dubaï après le jour de l'an?
Non, on est resté vraiment, on est arrivé le 31, on est reparti le 1er. Et en fait, moi, ma date prévue, en fonction de si tu comptes en date française ou en date anglaise, ou encore d'autres systèmes américains, t'as pas le même nombre de semaines de grossesse. Mmh. Donc du coup, comme on était sur un système anglo-saxon avec une gynéco française, j'étais entre 40 et 42 semaines. Donc nous, c'était établi sur 41 semaines. Et du coup, ma date, c'était entre le 8 et le 18, ou un truc comme ça à peu près. Et j'ai accouché le 10 janvier. Donc,
pas sur l'autoroute?
Pas sur l'autoroute. En fait, j'ai eu des contractions de Heitenbricks, je ne sais pas comment on le prononce. Bref, les fausses contractions pendant genre quasiment toute ma grossesse. Du coup, on était un peu au taquet, on savait un peu. Et j'ai commencé à en avoir beaucoup, encore plus que d'habitude, mais vraiment beaucoup plus. C'était un samedi, je me souviens. On bossait sur notre maison à distance en plus. Donc il fallait régérer tous les problèmes de travaux, tout ce qu'on voulait faire, choisir des couleurs de carrelage alors qu'on n'était pas là, enfin des trucs comme ça. Je me souviens qu'on faisait un Skype avec le père de Vincent qui était dans un magasin genre le roi, mais alors, je sais plus, un truc à la con. Et j'avais tellement de façon, je dis en fait on va arrêter, on va faire une pause parce que là je peux plus, je vais aller marcher un peu. On se rapprochait de la date à quelques jours près, j'en avais marre, je suis partie, j'ai marché, il était genre je sais pas, minuit, 2h du mat autour de chez moi. Je suis remontée, j'ai attendu, et puis en fait le lundi matin vers 5h du mat, je lui fais oh, je crois que je perds les os. C'était pas du tout ça. Mais j'ai dit, écoute, je suis pas sûre, je sais pas. Et franchement, on s'en fout, on part maintenant parce qu'on en a pour 1h30, imagine, viens, on y va. Et la gynéco nous avait dit, bon, avant de partir, vous avez quand même un peu le temps, donc mangez bien, préparez vos affaires, partez tranquillement, réveillez-vous. Du coup, à 5h du mat', on s'est fait un gros plat de pâtes avec du thé, on a préparé toutes nos affaires, on est parti avec 36 000 trucs. On est arrivé à Dubaï très tôt le matin et ils nous ont dit, bah non, en fait, vous avez tout perdu les os, tout va bien. Bon, ça devra arriver probablement d'ici 24 heures parce qu'effectivement, il se passe un truc, mais là, non, vous pouvez rentrer, quoi. Du coup, on a été se prendre une chambre d'hôtel. Ouais. Parce que on pouvait pas rentrer, c'était quand même proche, on savait jamais, mais voilà, j'ai accouché le mardi matin, donc finalement quand même assez proche. Et un autre truc qui est très bizarre, c'est que du coup quand je suis revenue le soir pour me faire checker, ils m'ont dit bah revenez, enfin les dîners revenez encore, et on est revenu, ils ont dit revenez à minuit en fait, pour qu'on vous check à minuit, comme ça si on vous admet à minuit, et quand en fait tu ne peux rester que 48 heures ou 72 heures à l'hôpital maximum, il vaut mieux que tu commences vraiment à des dates particulières. Mmh. Et le premier truc qui se passe quand on est donc revenu à minuit, ils m'ont dit ok, on va vous examiner, ils m'ont posé dans une chambre, ils m'ont dit ok bah attendez, et ensuite ils ont envoyé Vincent au comptoir pour payer, pour vérifier qu'il était solvable, et ensuite ils ont commencé à m'examiner. Ce qui veut dire qu'ils vérifient d'abord que tu peux payer avant de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est valable si tu as une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Ils vérifient toujours parce que c'est un business. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre dans la France où bah, tu payes pas et tu es soigné quand même, même si tu es, je sais pas, émigré, que tu n'as pas de papier, que tu viens d'arriver, on va te soigner, tu vois. Alors, ok, tout n'est pas parfait, mais quand même. Et là-bas, c'est un tel choc que genre Vincent, il est remonté, il me fait bah, ça va, je me fais. Enfin, on n'en revenait pas tous les deux, quoi. On était. Sur le cul. Mais du coup, ils m'ont admise et ils m'ont checké. On me dit, ah, vous êtes à 3, bon, ça bouge, ça va, c'est pas mal. Puis avec vous, ça devrait aller vite. On va voir ce qui ça débloque pendant la nuit. Donc, on vous descend dans votre future chambre de travail, je sais pas quoi, truc machin. Et puis, on reviendra vous voir à 6h du mat. Si c'est rien passé, on vous déclenche. Et en fait, ils voulaient me déclencher parce que je sais pas exactement comment, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait potentiellement du méconium en fait, donc les selles du bébé dans le liquide amniotique, ce qui veut dire que c'est bien de commencer à le faire sortir parce que sinon il risque de les absorber, et, mmh. etc. Ils sont revenus à 6h du mat, autant dire que moi j'avais pas dormi parce que j'étais en mode genre ça vient pas, qu'est-ce qui se passe. Vincent s'est endormi comme une masse, il était crevé. Et à 6h du mat, ils sont venus, ils m'ont checké, ils m'ont dit bon bah ça bouge un peu mais pas trop, on va vous déclencher, on va vous percer la poche des os aussi. Là, ils ont bien confirmé qu'il y avait beaucoup de méconium, ils m'ont dit bon, il va falloir qu'on se presse un peu. Et en fait, quand ils m'ont déclenché, mon corps s'est aussi dit « Hey, mais ce serait le bon moment !» Donc si tu veux, j'ai eu la dose de cytocine du déclenchement, plus mon corps qui s'est mis à bosser, donc j'ai eu double dose. Et en fait, du coup, ils m'ont déclenché genre à 6h, et je crois qu'à 9h, j'étais genre déjà à 7, tu vois, un truc comme ça. Le temps, je me dis « En fait, ça pique quand même, je veux bien que... Moi, maintenant, je suis prête, on va appeler l'anesthésiste. » Ma sage-femme qui était juste genre... Je la salue, elle écoutera pas parce qu'elle est anglaise, mais elle était incroyable, elle a des piercings, des tatouages partout, elle était trop cool. Et qui m'a dit, bon, je vais rappeler l'anesthésiste là parce que je pense que vous en pouvez plus. Et j'ai vraiment cru que j'allais crever, tu sais, genre j'arrivais plus à respirer, je tenais comme ça, ouais. Ça me regardait, c'était horrible. Et évidemment, elle m'a checké après l'anesthésiste, qui m'a dit, mais vous êtes sûre, elle peut là parce que ça a l'air compliqué. En fait, j'étais à 9,5 quand j'ai eu ma péridurale. Heureusement que je l'ai vu, franchement, c'était chaud. Du coup, j'ai accouché en 5 heures en fait en tout. Objectivement, médicalement, ça s'est hyper bien passé parce que j'avais pas de problème, le bébé a pas eu de problème, mon périnée n'a pas été déchiré, je sais pas, c'était hyper propre, j'ai vraiment pas aimé accoucher quoi. On t'explique, mais c'est le plus beau jour, mais c'est génial, t'oublies, j'ai rien oublié du tout alors que tout s'est bien passé, mais ça reste un des pires trucs que j'ai vécu de ma vie quoi, mmh. Vraiment. Mais elle est très bien, je l'ai chopée sous les bras après ce qu'elle était à moitié sortie, je l'ai récupérée sur moi, j'ai gardé genre vite fait 20 secondes parce que comme c'était un bébé méconium, il fallait qu'il la nettoie. Mmh. Pareil, la gynéco, enfin l'obstétricienne générale qui me dit ah, on va la récupérer, on va la mettre juste là, juste à côté, on lui nettoie juste les voies respiratoires pour éviter qu'elle aille en néonate après parce que c'est un des risques et on vous la remet tout de suite. Donc elle a toujours tout expliqué à chaque fois, c'était hyper rassurant. Vincent était avec elle, c'était à genre, je sais pas, genre 1 mètre la petite table, après ils m'ont ramené tout de suite. Vincent a pu couper le cordon, je voulais absolument voir mon placenta donc j'avais demandé et du coup quand ils l'ont sorti j'ai pu voir le placenta, on me dit oh, le truc de fou, c'est un steak, enfin, c'était impressionnant, on était tout contents et après j'étais juste lessivée, j'étais vraiment complètement crevée et je sais pas, j'étais pas contente dans le sens où je me disais pas genre waouh je l'ai fait ou j'ai réussi ou machin ou genre c'est incroyable, c'est ma fille, c'était juste je suis fatiguée quoi.
Elle était avec toi dans la chambre?
Ouais, elle était avec moi et Vincent aussi, on était tous les trois tout le temps en fait. À partir du moment où j'étais admise à l'hôpital, on s'est jamais quitté, on n'est jamais parti. Et quand ils nous ont changé de chambre, une fois qu'on est passé la salle de travail, je sais pas ce qu'on appelle la chambre classique, ou enfin bref, pas là où t'as tout ce qu'il faut pour accoucher, on était tous les trois aussi. J'avais peur justement qu'il l'emmène ou machin, et pas du tout, c'est moi qui l'ai porté pendant tout le trajet, etc. Donc on a toujours été collés.
Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Ça dépend pourquoi. En fait. Mon père a un background où il est hindouiste, et du coup, tout ce qui est karma et réincarnation, pour nous, ça fait partie de notre truc, et moi, j'y crois aussi. Et du coup, à partir du moment où, en fait, je suis tombée enceinte, pour moi, j'étais déjà maman. Donc du coup, quand elle est née, je me suis pas dit « je suis devenue maman » comme mon mec s'est dit « ça y est, je suis vraiment papa » parce qu'il l'a vu, c'était déjà. Est-ce que dire que quand je l'ai eu, en fait, je l'aimais déjà. Ça faisait 9 mois que je l'aimais. Et si tu prends les théories philosophiques hindouistes, ça faisait déjà 3 mois avant même que je sois enceinte qu'elle était avec moi. Donc, ça me paraissait naturel. Par contre, je me souviens que j'avais peur de lui faire mal. Tu vois, je me coupais bien les ongles parce que je voulais pas les gratigner, je voulais pas qu'elle ait froid. Et j'étais plus en mode genre « des petits gestes, est-ce que je vais y arriver ?» Il a mis son bain le premier pas, on était tous stressés, je voulais absolument un thermomètre, mais sinon, après, je me sentais bien avec elle. Ouais.
À quel moment tu as senti qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi? Tu étais un peu déprimée
Ouais, alors en fait, quand on est rentré à la maison, on est rentré très vite à la maison. C'est un truc qui me faisait peur aussi en France, je crois que tu peux avoir 5 jours, à peu près, 3 à 5 jours, quelque chose comme ça, en fonction des maternités. Et nous, c'était vraiment, c'était 2 jours pleins, quoi. Donc je suis rentrée le mardi, il fallait que je parte le jeudi matin, j'étais persuadée avant d'accoucher qu'en fait, je me sentirais pas prête, que je voudrais pas rentrer chez moi. Et à partir du jeudi matin, genre, je me suis réveillée à 7h, je voulais rentrer chez moi, genre là dans la demi-heure, j'en pouvais plus. Et à partir de là, je m'étais dit, je sais pas, j'étais pas en pleine forme, mais j'allais bien, j'étais contente, j'étais un peu survoltée parce que justement, elle vient net, t'es un peu dans le c'est faux, c'est trop mignon, t'es à fond, tout le monde est trop contente, on voit plein d'amour. Enfin, voilà, tu es un peu sur un petit nuage. Vincent, en plus, est resté avec nous parce qu'il a pu utiliser un congé paternité, chose assez exceptionnelle et révolutionnaire. Sa boîte aux Émirats Arabes Unis donnait un congé paternité.
De combien de temps?
C'était 5 jours. Mais ça comptait le week-end, attention. Mais déjà, c'était pas mal. Il avait rajouté des vacances en plus. Et du coup, c'était super cool parce qu'on est restés collés genre pendant, je crois, 2 semaines, que tous les 3. Mmh. Et après, la famille est venue. C'est l'avantage quand t'es loin, si c'est que si tu veux ce petit moment, tu l'as. Et là, du coup, comme je me sentais bien et je lui avais dit, moi, je veux vraiment essayer de rester allongée, il était là, il aidait vachement, il faisait tous les trucs de la maison, machin. C'était cool. Et quand je me sentais bien, je me disais, bah écoute, non, toi tu vas reprendre le boulot, vas-y, je vais faire les nuits, toi tu fais la journée. Puis, et en fait, c'était une grosse connerie parce que je me suis crevée vachement plus vite. Et à partir du moment où en fait, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais vraiment fatiguée, et je me dis, j'arrive plus, là, je crois que je commence à être vraiment crevée, il va falloir que tu m'aides pour la nuit. Il me dit, ouais, mais moi je bosse, tu vois, c'est pour ça que t'as commencé à faire les nuits. Et dans notre tête, c'est à peu près logique. Sauf que je dis, ouais, mais là, faut vraiment que je dorme un peu. Et ça suffisait pas en fait que je dorme, ça commençait à être vraiment difficile. Et il y a aussi des moments où en fait j'en avais marre parce que je savais plus quoi faire avec elle. C'est les enfants, je trouve ça sympa, je trouve ça marrant quand ils parlent, mais sinon les bébés, c'est même maintenant, j'ai aimé ma fille mais c'était pas mon truc, je trouve. Enfin, c'est incroyable sur le développement, mais il suffit que je lise un bouquin, j'ai pas besoin de l'avoir. Et je trouve ça compliqué de, enfin je sais pas, je voulais être sûre qu'elle passe une bonne journée, comment elle va se développer, est-ce que je peux l'aider, faut que je la distraie, et au bout d'un moment c'était lourd quoi.
Donc ça, c'est l'impression.
Ouais, je pense que je me suis mis trop de pression par rapport à... Je veux protéger Vincent parce qu'il va bosser et que du coup, il faut en fait qu'il dorme pour qu'il puisse assurer la journée pour que nous, derrière, ça aide parce que mon congé mat, au bout d'un moment, était plus payé du tout. Donc ça faisait pas une différence énorme, mais ça faisait quand même une bonne différence. Et aussi parce que, en fait, je pensais que, comme on te montre ça partout, quand t'es maman, tu peux tout faire et tu peux tout gérer toute seule. Et en fait, c'est pas vrai. Et quand je l'ai compris, c'était un peu compliqué parce que les autres images de maman, une grande partie qu'on avait autour de nous, c'était pareil. Et Vincent met du temps avant de comprendre aussi que je coulais, que ça allait pas, et moi aussi j'ai mis du temps à comprendre. Et en fait, c'est vraiment grâce à une copine que je me suis rendu compte que ça allait pas, parce que dès qu'il rentrait du boulot, c'était vraiment genre je lui colle ma fille dans les pattes, j'en peux plus. T'es vachement isolée parce que déjà tu vas plus au boulot, donc tu vas plus vraiment tes collègues, t'as pas beaucoup d'adultes que tu vois la journée, tu connais pas encore les parents parce que tu viens d'accoucher. Moi je suis pas du tout Facebook, j'avais pas envie d'aller sur des groupes. Et puis plus la fatigue s'installe, et plus en fait t'as une petite déprime, moins tu t'ouvres aussi aux autres. Donc sans t'en rendre compte, tu te laisses vraiment rester encore un peu plus seule. Et du coup, ça devient lourd aussi du coup pour lui. Du coup, lui me faisait chier aussi, donc j'avais plus envie de le voir non plus. En fait, j'avais juste envie de rester toute seule sous ma couette. Et ça a grandi au fur et à mesure. Et j'étais vraiment... J'avais qu'une envie, en fait, c'était de dormir tout le temps, et de dormir toute seule, quoi. Mmh. Et à un moment, on est venu en France. On est venu 2 fois en France. Elle est née en janvier. On est venu pour mon anniversaire en mars, parce que j'allais avoir 30 ans et je voulais absolument fêter mon anniversaire. Et ça me permettait aussi de présenter la petite... à la famille qui n'avait pas pu venir, parce que c'est cool d'être expat, mais tout le monde ne peut pas venir toi parce que tout le monde n'a pas la thune. Donc c'est bien qu'on rentre. Et on est revenu en juin parce que c'était les vacances d'été, on fuyait un peu la chaleur, puis donc c'est de nouveau un petit break. Et à ce moment-là, j'ai vu ma meilleure pote qui je discutais souvent, mais qui m'a dit là c'est pas possible en fait, je te laisse repartir, mais tu me promets que tu vas voir un psy, parce qu'en fait là je pense que tu fais une dépression, en fait tu t'en rends pas compte du tout, mais en fait tu coches plein de cases. Et j'ai donc été voir une psy, pareil, par hasard, trouvée sur Google, je me suis dit, oh, une bonne tête, je ne sais pas, on va voir, et en fait elle est géniale. Tout s'est passé en anglais parce qu'elle est américaine, et je sais pas pourquoi je l'ai choisie, je me suis dit, j'essaye, on verra bien, et en fait elle était vraiment incroyable, quoi. C'était top et ça m'a aidé. Elle a réussi très délicatement à me faire comprendre que oui, effectivement, ma copine avait bien vu que ça n'allait pas et qu'en fait c'était pas normal de se sentir mal avec son bébé, de se sentir si seule, d'être aussi triste, d'être aussi fatiguée, d'avoir envie de rien. Et je me souviens d'un truc, c'est qu'elle m'avait dit à un moment, tu remplis un questionnaire aussi pour savoir par rapport aux normes des SN4, etc., ta type de pathologie, ou voir si tu peux justement être rangée entre guillemets dans une de ces catégories. Et il y avait un truc auquel je m'étais pas rendu compte, c'est qu'en fait je parlais très doucement, je parlais super bas. Et c'est vrai qu'en y repensant, ça me demandait souvent de répéter ou de parler plus fort. Et je m'effaçais, je m'auto-effaçais, quoi. Et ça m'a fait vraiment du bien de l'avoir parce que j'ai pu. Je sais plus dire, en fait, je suis fatiguée. En fait, je veux plus l'avoir là, je veux juste rester toute seule. Et après, je crois, une ou deux séances, très rapidement, ça s'est dessiné, elle m'a diagnostiqué. Et du coup, elle m'a dit il faut vraiment que vous posiez, que vous en discutiez avec votre mari. Je pense juste qu'il y a une grosse incompréhension. Mais... enfin, il n'y a pas de méchanceté dans le fond, donc posez-vous et dites-lui simplement les choses, s'il y a besoin, on peut faire une séance tous ensemble, etc. Et je sais plus comment, mais j'en ai discuté à Vincent, je lui dis, en fait, tu sais, quand je te dis que je suis fatiguée, que ça va... enfin, en fait, je fais une dépression postnatale, donc en fait, là, je vais partir. Il m'a dit, ok, alors c'est ce qu'on va faire, tu trouves une copine, celle que tu veux sur Abu Dhabi, machin, on va faire un truc, moi je prends la babysitter, machin, donc il a trouvé une babysitter, moi j'ai checké avec des copines, et j'étais passée genre 3 ou 4 jours chez une copine, donc c'était pas loin, c'était à 20-25 minutes. Mais elle habitait sur une petite île qui s'appelle Sadiat. En fait, à Abu Dhabi, c'est plein d'îles qui sont reliées. Et Sadiat, c'est une île qui est complètement à l'est et qui a là où il y a le Louvre. Et c'est hyper joli parce que quand on y va pour voir des potes, on a l'impression d'être en week-end. C'est un peu comme si t'allais en week-end en Normandie, entre guillemets, quoi. T'es dans un cadre qui est un peu différent, un peu idyllique. T'as la plage, une des seules plages naturelles. C'est très joli, c'est très pisse. Donc ça faisait un peu comme si j'étais partie dans un resort, quoi. Surtout qu'en plus, la résidence est dans un hôtel. Donc si tu veux, ça faisait un petit côté un peu vacances. J'étais avec une de mes super copines avec qui du coup je pouvais discuter aussi, qui est maman aussi, qui est juste adorable. Et c'était trop chouette parce que ça m'a fait vraiment du bien. J'ai pu faire rien, j'ai pu juste ne pas penser à elle, ne pas m'en occuper. Et au début j'avais un peu peur parce que elle serait restée avec que mon mec. J'aurais aucun problème avec quelqu'un que je connaissais, mais le fait que ce soit une babysitter que certes on avait vu un peu mais pas tant que ça, et que direct ce soit plusieurs journées parce que lui il bossait et il a pas pu au déboté comme ça dire à son boss, écoute, en fait ma femme ça va pas, je vais arrêter, que j'avais un peu peur. Mais au fur et à mesure des jours ça se passait bien, il me donnait des nouvelles juste pour me dire tout va bien, n'y pense pas, repose-toi. Ça m'a fait vachement bien. Mais à partir de là, on s'est dit, ok, bon, tu peux pas rester avec elle tout le temps, ça marche pas. Ça va pas du tout, en fait.
T'étais restée combien de temps
6 mois.
6 mois, ok.
Et en fait, 6 mois, je pense, j'aurais dû reprendre le boulot quand elle avait 4 mois. Mais ah oui, parce que cerise sur le gâteau, ça n'a pas aidé. Une semaine avant que je finisse mon congé mat, je suis retournée voir ma boss, qui l'a mordre l'âme parce que c'est pas elle qui a décidé. Elle m'a annoncé qu'en fait, il fermait mon département RH, et le département RH, c'était moi, en fait. Donc en fait, il me virait. Et ça, c'était dur aussi parce que. En fait, je pense que ça faisait déjà quelques semaines que je voyais ça comme... j'appréhendais de laisser ma fille, mais c'était aussi ma porte de sortie parce que j'allais me resocialiser, j'allais avoir autre chose que mon enfant toute la journée, et j'allais refaire quelque chose que j'aimais bien et retrouver des gens, enfin, mon petit monde à moi, quoi. Pas juste mon monde de maman. Et je pense que ça m'a mis un coup en plus. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, ce serait passé différent parce qu'elle aurait été à la crèche. Et je pense que c'est la fatigue, mais le fait d'être aussi tout le temps avec elle. Il y a des mamans qui arrivent à faire ça, et je trouve ça genre incroyable. Moi, je peux pas être H24 avec ma fille tout le temps pendant plusieurs semaines d'affilée. En fait, je ne sais pas faire ça, je peux pas, j'arrive pas. J'ai besoin de moments où je vais me poser, être toute seule pour faire rien de spécial. Mais genre, quand par exemple la dernière fois je l'ai posée chez des potes parce que je vais chercher un colis, il n'y avait pas la place dans la voiture, j'ai fait un trajet toute seule, j'étais trop contente. Ça faisait 3 semaines et j'ai rien fait de spécial, mais juste j'étais toute seule, quoi. Je me suis arrêtée pour faire pipi, j'ai fait pipi toute seule, j'ai pris juste mon sac pour sortir de la voiture, ça a pris 2 secondes, et ça, j'en ai vraiment besoin. Donc du coup, ça c'était la claque en plus, et ça voulait aussi dire, comme il n'y a pas d'indemnité chômage aux Émirats, que je devenais 100% dépendante de mon mec. Et ça, je pense que finalement, en y repensant, le tout couplé ensemble, c'était compliqué pour moi. J'avais pas du tout envie d'être dépendante de lui, je voulais être sûre de faire ce que je veux quand je veux. Alors c'est pas le genre de mec qui va compter, qui va demander, mais dans l'idée, je me sentais hyper mal à l'aise, je voulais pas du tout. Et du coup, je pense que ça a pas aidé. Donc c'était compliqué. Du coup, je pense que jusqu'à 4 mois, ça allait, mais je pense que les 4 à 6 mois, c'est vraiment là où ça a basculé, parce que t'as eu vraiment l'accumulation de la fatigue, l'isolement qui s'est installé, et puis tout le reste. Et alors là, en plus, j'ai plus de job, donc si tu veux, je perds un peu mon statut, je perds mon indépendance financière. la porte que je pensais pour me débarrasser entre guillemets de mon bébé quelques heures par jour n'existait plus, donc c'était dur. Mais elle était du coup quand même à la crèche. Dès que je suis rentrée de chez ma copine, on a checké les crèches, on avait déjà choisi la nôtre, mais on est retourné la voir, on a vu que c'était bien. Ils sont adorables et la nana qui gère les bébés, Sharon, elle est top. Et je, sans dire, je pense qu'elle a senti que c'était dur pour moi, que j'en pouvais plus. Et du coup, très doucement, vraiment, enfin, ils étaient super humainement parlants et autant ils prenaient soin d'elle, mais c'était aussi cool avec moi. Ils ont compris qu'au début, j'avais besoin d'être vachement rassurée parce que j'étais super flippée en même temps de la laisser. Mmh. Parce que je suis déprimée, je l'ai déglinguée, c'est foutu. Et en fait, non, ils ont été super cool et elle est top. Et c'est ces gens, tu sais, qui sont des aimants enfants, les enfants les voient. Et même le plus timide a juste envie d'aller se fourrer dans ses bras et d'y rester toute la journée. Quoi. Mmh. Du coup, c'était génial et Héloïse était super bien là-bas, elle était très contente, elle s'est encore plus développée, elle était à fond. Elle s'est fait des copains, entre guillemets, parce qu'à 6 mois, t'as pas vraiment des copains, mais elle était bien, elle avait ses petites habitudes, enfin, tout se passait bien. Et ça m'a permis de souffler un peu plus, quoi.
Comment t'as remonté la pente? T'étais médicalisée, toi, du coup, à ce moment-là, ou pas?
Pas encore, donc du coup, j'ai été voir la psy en juin, en rentrant, donc fin juin, début juillet, elle a commencé la crèche en juillet, le 6 juillet, je m'en souviens encore. Et j'ai continué à voir ma psy, du coup, je la voyais deux fois par semaine, et après, on devait partir en vacances en août, tous les trois semaines pour aller se reposer, voir la famille, les copains. Et avant de partir, elle m'a dit « Je pense qu'en fait, vous n'êtes pas complètement prête et que pour être sûre que dans les vacances, qu'on ne se voit pas, que tout se passe bien, ce serait bien de vous faire médicaliser, surtout que vous progressez, mais pas beaucoup. Mmh. » Et du coup, j'ai été voir un psychiatre, chose que je voulais éviter au maximum, mais je faisais vraiment confiance à cette psy. Et du coup, je me suis dit « Je peux toujours aller voir et puis on verra. » Et du coup, elle avait un traitement hyper léger ou, enfin, qui collait avec ce dont j'avais besoin et qui a écouté le fait que je ne voulais pas ci et ci et ça. J'ai fait des études de psychologie, donc je me souviens qu'on avait vu aussi, comme tu bosses avec des psychiatres, toute la liste des médicaments, les trucs. Alors ça se met à jour régulièrement, mais je me souvenais très bien que t'as des antidépresseurs qui te foutent vraiment en l'air, quoi. Mmh. Du coup, j'avais évoqué ça avec lui et on avait trouvé un traitement qui pouvait me correspondre. Il m'a dit on teste. Si au bout d'une semaine vous avez A, B, C, D comme symptômes secondaires, vous revenez me voir, on réajuste, machin. Du coup, j'ai commencé mon traitement, je pense, fin juillet, et je suis partie, genre aux alentours du 10 août, un truc comme ça, et le traitement me correspondait. Je l'ai gardé pendant 6 mois. Et à partir du moment où le traitement a marché, ça a été magique, quoi. Donc du coup, à partir de septembre, je me sentis vraiment bien parce que j'ai retrouvé un équilibre avec ma fille. Même si je bossais pas encore, j'acceptais de prendre du temps pour moi. En fait, juste, j'étais bien, j'avais envie de manger, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de faire du décalage à mon mec, j'ai envie de rigoler avec ma fille. Enfin, les choses sont revenues au fur et à mesure. Je continue à voir ma psy deux fois, puis au fur et à mesure, ça a descendu par une fois par semaine, mais plus tard. Et en fait, comme ça allait vraiment bien, et ben en fin septembre, je crois, quand on est rentré vacances, j'ai dit « Viens, on en fait un deuxième !» Elle m'a dit « Non, mais en fait, non, en plus, je lui avais vendu le « Moi, je ferai un deuxième enfant si jamais je survis à mon accouchement et si jamais aussi, pareil, mon enfant sait faire ses chaussures, manger tout seul, enfin, limite, il peut faire les courses tout seul, tu vois. » Donc, il ne s'attendait pas à ce que je rebondisse si vite. Donc ça, c'était un peu chaud. Et je me souviens aussi que j'ai eu, outre la dépression, un autre truc, c'est que en fait, j'ai fait un énorme rejet de mon corps, plus particulièrement de toute la région de mon vagin ou ma vulve, simplement parce qu'en fait, j'avais accouché. C'est comme si je m'en voulais d'avoir fait ça. Je sais pas, je pouvais pas me toucher, je pouvais pas me regarder. Genre, pour me laver, c'était vraiment... C'était pas pour se laver, hein, mais c'était vraiment compliqué. Pour me sécher quand j'ai eu mes règles, enfin, tout a été hyper compliqué. Je voulais plus en parler, je voulais même plus prononcer le mot. Enfin, ça a été un peu... Alors que l'accouchement s'est bien passé, hein, vraiment. Mais du coup, ça c'était dur aussi. Elle m'a aidée là-dessus en parallèle. Et je pense que c'était un tout, parce que tu peux pas aller bien si tu rejettes en partie ton corps, et surtout cette partie-là qui... Enfin, sont t'es rappelé à l'ordre dès que tu vas faire pipi, dès que tu vas faire caca, dès que t'as tes règles. Enfin, tu peux pas ignorer ça. C'est pas comme le petit doigt de pied, quoi. Il est là, quoi. Du coup, ça a été compliqué aussi à revoir. Et c'était une discussion aussi. Vincent m'a dit, mais sauf, on va pas refaire un enfant si t'es pas bien déjà dans ton corps et bien dans ta tête. Et puis, on va attendre que tu finisses ton traitement. On va attendre d'être sûr que tu vas bien. Enfin, doucement, là, tranquille. Mmh. Donc, du coup, on a attendu. Ça m'a permis de me remettre. Maintenant, tout va bien.
Est-ce que les langues, elles se sont un peu déliées quand t'as eu ce problème? Parce que tu disais qu'il y avait un peu l'image de la maman parfaite. En fait, dans ton entourage, est-ce que des amis
Bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, on a des copains à Abu Dhabi, mais on a aussi des amis. Et les amis, c'est ceux qui, je trouve, tu dis un peu tout, tu racontes vraiment, qui sentent les choses, genre bah, ma pote, d'autres potes à qui j'en ai parlé. Mais il y en a plein qui n'étaient pas maman, donc qui m'écoutaient, qui soutenaient, mais juste, elles n'en savaient rien. Et mes copines maman sont pas du tout comme ça. Donc en fait, c'était plus une image générale de... si tu cherches d'infos sur internet, si tu regardes des émissions, si tu vois des films sur Instagram, des trucs comme ça qui font qu'en fait, bah, t'as pas cette impression de réalité. Et les gens qui réellement sont dans la maternité autour de moi, c'est plus en fait des potes de Vincent, donc qui sont plus âgés et qui ont des enfants qui sont vachement plus grands et qui sont plus loin. Donc même si c'est quelques personnes avec qui je suis très proche, je me voyais pas les appeler et leur dire écoute, en fait, je vis ça, est-ce que c'est normal ou... Et ces personnes-là donnent pas une image de la maternité parfaite, mais comme les enfants sont plus grands, je les ai pas vus en train de galérer quand ils étaient petits, ça m'est pas venu l'idée de me dire il faut que je me pose et que je discute avec elles. Et c'est Vincent justement qui est une de ses meilleures potes, Aurélie, qui est incroyable aussi. D'ailleurs, si Aurélie, un jour tu écoutes ce podcast, je t'envoie plein de bisous. Qui, plus tard, j'ai pu lui poser des milliards de questions, qui m'a dit écoute, quand t'as un doute, tu m'envoies un message, je te réponds. Et qui m'a vachement déculpabilisée et qui est à milieu de ces mères parfaites dont l'image en fait est fausse. Mais j'ai pas eu ça. Et en plus, à Abu Dhabi, t'as un côté où, comme la plupart des gens qui sont là sont forcément expats ou alors locaux, mais du coup sont bien nantis, ils ont tous des aides. Et moi, je me souviens que je voulais pas d'aide parce que c'est un truc, c'est la bonne à l'ancienne, on en parlait quand je suis arrivée, où vraiment la personne peut habiter avec toi, fait la cuisine, fait le ménage, s'occupe des enfants. Et nous, on se disait, mais on veut pas quelqu'un qui vit avec nous, qui en plus a abandonné ça, entre guillemets, a dû laisser ses enfants pour rien s'occuper d'une autre. Genre, on aurait trop culpabilisé, puis ça me paraissait pas naturel du tout, puis on pouvait pas se balader à poil chez nous. Donc on voulait pas, mais rétrospectivement, on s'est dit, ok, si jamais pour X raison, on a notre bébé à Abu Dhabi, on trouvera une sorte de babysitter comme on a maintenant, qui vit pas avec nous, mais qui fait un certain nombre d'heures par semaine pour nous aider et juste pour nous soulager, et on fera pas la même connerie. Mais du coup, c'est compliqué parce que toutes ces mamans, elles sont pas en burn-out, puisqu'il y a quelqu'un qui peut, entre guillemets, faire à peu près tout ce qu'elles veulent, et elles peuvent se décharger vachement. Et du coup, c'était un peu compliqué. Donc après, quand j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte que t'avais justement le Instagram des mamans parfaites et l'Instagram des vraies mamans dans la vraie vie qui galèrent ou qui ont des hauts et des bas, qui sont comme tout le monde. Et là, ça m'a aidée, et là, les choses ont commencé à plus se débloquer. Mais c'était compliqué parce que la plupart de mes potes, elles sont pas mamans. Donc,
voilà. T'as échangé avec des mamans sur Instagram ?
Non, du tout non plus. Mais en fait, je suis très timide, donc j'ai du mal à rentrer en contact avec les autres. Mais par contre, le fait de voir ou de lire des posts et juste de lire des témoignages, ça m'a aidée. Et en fait, je répondais pas, je likais même pas. Hein. C'était juste en mode, je regarde, je ne follow même pas le compte, faut pas qu'on sache que je suis là, mais ça m'a fait du bien. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire, en fait, si elles m'ont fait du bien, il faut que je leur dise, parce que c'est pour des gens comme moi, entre autres, que ça parle vraiment. Et il faut que je les suive, il faut que je le dise. Donc après, j'ai commencé à liker, remettre un commentaire ou dire merci simplement. Et après, j'ai découvert les podcasts. Et là, c'était cool. Les podcasts, c'était vraiment un truc en plus, quoi. Et ouais, c'est comme ça qu'après je me suis dit, en fait, il y a toute une façade qu'on essaie de construire, et j'ai arrêté aussi de regarder les mamans qui font des trucs trop parfaits où tout est toujours parfaitement rangé ou elles ne galèrent jamais. Et tu peux avoir aussi envie de montrer que les bons aspects, ce que je comprends, mais en fait moi je pense qu'à cette période là ça m'a pas du tout aidé. Donc maintenant je le vois différemment, mais à cette époque c'était dur et j'en ai pas encore beaucoup parlé. C'est à dire que j'ai des copines à qui je dédie mes proches. Mais c'est pas un truc où si on me demande « Ah, comment t'as vécu ta maternité ?» Je dis pas d'emblée « Ah bah c'était compliqué parce que j'ai fait une dépression postnatale. » C'est comme la fausse couche aussi, j'en ai fait une. C'était hyper compliqué pour moi d'en parler. En fait, je me rends compte que non, il faut qu'on en parle parce que c'est normal. Et ça, c'est pas évident. Donc j'en ai pas parlé encore beaucoup, beaucoup.
Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une jeune maman qui traverse une dépression postpartum ?
De s'écouter. C'est-à-dire que si à un moment, tu te dis « En fait, j'ai... » plus envie de dormir. En fait, j'ai plus envie de rien. Ou que tu sens que t'es pas comme d'habitude, ou juste que t'es fatiguée, enfin que t'as un doute, tu le sens un peu, écoute-toi et genre juste trouve quelqu'un pour te dire c'est bizarre ça, non ? Et si c'est pas ton mec, c'est pas grave, ça peut être des gens sur Instagram qui vont te répondre, ça peut être d'aller voir un psy, ça peut être une sage-femme, une copine, une maman, mais si t'as un doute, écoute-toi parce que je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, quoi. Si tu te sens pas bien, en fait, t'es pas bien. Peu importe qu'on te dise, mais si, tu devrais ou tu devrais pas, si tu te sens pas bien, tu te sens pas bien. Quoi. Et une fois que t'as mis le doigt dessus, il faut pas se rester toute seule. Et je trouve qu'on n'en parle pas forcément beaucoup dans le sens où, ok, ça existe, mais en fait, c'est violent, c'est pas le baby blues qui est déjà une bonne petite claque. C'est un truc où, en fait, vraiment, tu te dis, genre, je sais pas, tu déposes ton gamin à la crèche ou même n'importe où, tu repars et tu te dis, ok, est-ce que je vais planter ma voiture dans un réverbère, comme ça, au moins je serai morte, au moins je serai à l'hôpital et je serai tranquille. Donc, c'est pas juste une petite déprime, c'est un truc où en fait ça va super loin et c'est une vraie dépression. Et du coup, c'est très fatigant et c'est très compliqué parce que les gens en face ne comprennent pas ta situation. Tu viens d'avoir un bébé, la norme c'est tout va très bien, tu as de nouveau un ventre plat, tu es très contente, ton bébé fait ses nuits, mange bien, et toi tu es ravie. Et en fait, c'est pas ça, et du coup, c'est vraiment dur parce que toi tu vis complètement en décalé et c'est être dans le noir en permanence. Et ça, c'est un truc que je trouve aussi compliqué dans le sens où. Maintenant, ça s'ouvre plus, je trouve, mais il faut encore chercher l'information. Et je trouve qu'on devrait, on parle du baby blues, on devrait dire aussi, il y a plus fort que le baby blues, et il y a plus dur et plus dangereux aussi, parce que t'as vraiment des mamans qui passent à l'acte et qui se suicident vraiment, tu vois, ou qui abandonnent leur gamin, et ça, c'est des vraies pensées qui te traversent vraiment, et pas juste histoire d'eux, c'est tu te dis comment je vais le faire, quoi. Et quand tu commences à te dire que t'es dans la réalisation du truc, tu te demandes à quelle heure, pour pas que ça gêne trop, et pour... un peu compliqué, quoi. Donc je trouve que c'est un truc aussi où... ce serait bien qu'on en parle plus de manière générale, quoi. Et à l'accouchement, le machin, et les risques, c'est, ça fait partie des risques, quoi. Surtout que ça tombe un peu au poker, quoi. C'est la roulette, tu sais pas si tu vas l'avoir ou tu vas pas l'avoir, quoi. Sans vouloir faire flipper tout le monde non plus.
Et aujourd'hui, comment tu te sens ?
Écoute, aujourd'hui, ça va. J'ai l'impression, par contre, qu'il y a un petit truc qui reste, c'est que maintenant, quand je suis fatiguée, j'ai vraiment un coup de blues aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc j'ai l'impression d'avoir gardé une sorte de séquelle. Et je pense que... ça veut dire que je m'en défrai un peu jamais, tu vois, donc je suis un peu plus vigilante, mais sinon, dans l'ensemble, ça va bien, je suis plus du tout médicalisée, je me psy de temps en temps, mais pour carrément autre chose, donc ça, c'est cool.
Donc ta fille, elle a 2 ans et demi, aujourd'hui, vous vivez à Abu Dhabi, comment ça se passe pour toi d'éduquer une... enfin, comment ça se passe d'éduquer une fille dans un pays assez controversé sur les droits des femmes ?
Alors, quand je suis tombée enceinte, on s'est renseigné sur le projet maternité et paternité, on a halluciné. Et ensuite, on a regardé la loi. Et en fait, on pensait que, dans les faits, ils ne le mettent pas en pratique, mais c'est possible. Si je veux sortir du pays avec ma fille, comme je suis seulement une femme, j'ai besoin de l'autorisation de mon mari. Parce que dans ces pays-là, seuls les hommes ont le droit de garde, ou enfin, des droits sur les enfants. Alors que tu as accouché, quand même. Hein. Et du coup, on avait très peur de ça et il n'y a jamais eu de problème. Mais quand même, ça fait bizarre quand on entend ça. Et ensuite, en théorie, il a presque le droit de vie et de mort sur sa femme et son enfant, tu vois. Donc, le décor, il est moyen. Et souvent, quand je dis aux gens que j'habite à Abu Dhabi, tout le monde me dit « Ah mon Dieu, mais l'Arabie Saoudite, c'est affreux !» Parce qu'en fait, finalement, peu de gens savent que Abu Dhabi, c'est pas en Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est la capitale, ils confondent avec Riyad ou je sais pas quel autre. Du coup... c'est un pays qui est certes musulman, mais qui est quand même vachement plus ouvert. C'est-à-dire qu'ils ont 85% d'expatriés qui viennent du monde entier, qui certes respectent le fait que c'est un pays musulman, mais tu peux boire de l'alcool, tu peux acheter du porc, je sais pas, alors pas de drogue, hein. Ça c'est pas la peine. Mais il y a un truc où ils se sont dit, ok, si on veut que notre pays fonctionne bien, il faut que les gens qui viennent, parce qu'on n'a pas leurs compétences, se sentent bien pour qu'ils restent et comme ça on prospère. Et ça c'est hyper malin de leur part. Du coup, tu peux continuer à avoir une vie qui est quand même assez simple, mais on va quand même te faire sentir une petite différence dans le sens où tu vas avoir besoin de l'autorisation, par exemple, de ton conjoint pour plein de trucs. Quand on est arrivé, j'ai voulu avoir une ligne téléphonique, donc je vais aller chercher une puce, et ben j'avais besoin d'autorisation de mon mari. Si j'ai voulu passer mon permis, et ben en fait j'avais besoin d'autorisation de mon mari. Quand j'ai commencé à bosser, j'ai eu besoin d'autorisation de mon mari pour ouvrir un compte en banque, j'ai eu besoin d'autorisation de mon mari. Oh ! Et avant, j'en avais marre là. En fait, ce qui se passait, c'est qu'évidemment, je rédigeais les trucs et je les signais à sa place et je lui en parlais après, mais en mode méga vénère, et lui, il trouvait ça pas normal, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il y fasse ? Mais c'était juste vraiment chiant, ce qui veut dire qu'en fait, t'as l'impression d'être chaperonnée en permanence. Tu es une femme, donc c'est pas un côté tu es une femme, tu es inférieure. Si tu es une femme, donc il faut te protéger, tu es fragile. Tu peux pas faire les choses par toi-même parce que tu es une femme. Donc en fait, il y a un côté où je me souviens, les premières discussions qu'on avait eues, Vincent me disait, ouais, mais c'est pas si terrible que ça parce qu'en fait, ils ont un côté où tu vas mettre la femme sur un piédestal. Ouais, sur un piédestal, mais dans une putain de cage dorée. Donc en fait, c'est pas cool non plus d'être dans une cage dorée. Genre, non, fais pas ça parce que faut pas que tu portes lourd, hein, t'es une femme. Faut pas... Non mais ça va, c'est bon, je sais aussi changer une roue et planter un clou, enfin, lâchez-moi quoi. Donc ils sont en train de changer. Il y a plein de femmes locales qui ont leur propre business, ou pas locales d'ailleurs. Les femmes locales peuvent aussi faire des études, elles peuvent partir à l'étranger, elles voyagent, elles sont chefs d'entreprise, elles sont mères, elles sont pas mères, enfin... t'as une grosse pression et t'as les limites aussi que la religion leur pose, mais c'est pas le pire dans le coin. Donc du coup, je m'attendais à tellement pire que je me suis détendue avec les années, et je suis obligée de reconnaître qu'il y a des trucs où ça va, mais quand tu viens de France et que t'as l'habitude, en plus d'avoir grandi dans un milieu qui est plutôt assez féministe, hyper ouvert, égalitaire, en tout cas pour ma part, c'est assez compliqué d'arriver, et c'est encore plus compliqué que les fois que tu te prends des claques en France, parce que c'est des claques du gouvernement et de toute la société, quoi. Et un autre truc qui est compliqué aussi, je trouve, c'est quand tu passes du statut de femme au statut de mère. Déjà, je me souviens quand on est arrivé, donc on est arrivé fin septembre, Vincent a commencé à bosser tout de suite, moi j'ai cherché un boulot, donc je m'étais laissé les fameux 3 mois de « si je trouve pas le boulot dans les 3 mois, je te préviens, je me casse !» et j'ai trouvé un boulot, mais en attendant, je sais pas, j'ai commencé à faire du yoga, du pilates, j'ai essayé de rencontrer un peu des gens, je me baladais, je découvrais un peu la ville, et parmi les gens qu'on commençait à rencontrer... alors évidemment ces personnes-là ne sont pas devenues des potes, mais j'ai eu beaucoup de questions, et dès que j'expliquais pourquoi j'étais venue à Abu Dhabi, j'expliquais bah voilà, en fait je suis venue avec mon mari, puis il bosse pour telle boîte, Mais bosse pour cette boîte-là. Mais cherche pas de boulot, t'as pas besoin de travailler dans ce cas. Non, mais en fait, c'est pas parce qu'il gagne beaucoup d'argent que je vais pas travailler. C'est parce que moi, j'en ai envie, c'est pour mon développement personnel. Ce qui veut dire qu'en fait, même les gens qui vivent là-bas, sans être obligés par le gouvernement, ont juste une vision de la femme qui est assez archaïque. Et du coup, s'attendent à ce que, en fait, bah, tu restes dans ta maison, tu vas faire des manucures, des massages, etc. Tu vas prendre des cafés avec tes copines. C'est très bien. Il y a des femmes qui aiment ça et j'ai aucun problème. Mais moi, ça me gonfle. Et du coup, quand on me posait cette question, ça m'était hors de moi parce que je voulais dire aux gens, mais en fait, non, je travaille, j'ai pas parce que je le dois, j'ai la chance que ce soit parce que je voulais. Mais du coup, arrêtez de mettre dans une case comme ça, quoi. Et ça, c'est le premier statut, c'était une femme, donc t'es un peu un plus 100, quoi. Et ensuite, il y a vraiment le côté où, genre, bah, une fois que tu deviens une maman, je trouve que c'est pire. En tant que femme, je trouve que ça allait, mais alors en tant que maman, tout d'un coup, tu deviens maman, tu n'existes que en tant que maman. Même si tu bosses, hein, c'est... et ils sont hyper, mais à tout niveau de la société, et pour tout le monde, expat ou locaux, je trouve que t'as une espèce de message de les mamans qui bossent, bon, c'est bien, mais ton gamin d'abord quand même, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est encore difficile, ils ont beaucoup de progrès à faire là-dessus, quoi. C'est tellement patriarcal, c'est tellement arriéré, c'est assez hallucinant. Donc t'es une maman, t'es dévouée corps et âme à ton enfant. Ça n'a pas dû m'aider, ça, d'ailleurs.
Et comment tu voudrais éduquer ta fille dans un milieu aussi...
stéréotypé.
Oui.
C'était compliqué parce que, par exemple, quand tu vas pour acheter des vêtements, donc en fait, on ne savait pas si on allait avoir un garçon ou une fille, parce qu'on a voulu garder la surprise jusqu'au dernier moment. Ça, c'est très marrant, les gens n'aiment pas aussi, ils ont beaucoup de mal. Et nous, on était contents parce que ça faisait un petit côté magique. Et moi, j'étais doublement contente parce que du coup, les gens n'ont pas pu nous offrir du bleu ou du rose. Ils étaient obligés d'offrir des couleurs neutres. Ce que nous, on a fait, on a acheté du blanc, je sais pas, du gris, du vert, mais on a acheté quand même du rose et du bleu, mais pas parce que, juste parce qu'on aimait bien. Et quand elle est née, à partir du moment où les gens ont su que c'était une fille, on a reçu une pléthore de trucs en rose, de trucs mignons, enfin des trucs vraiment estampillés filles, quoi. Et ils ont vraiment ce besoin de genrer absolument. Et ça, c'est un truc que, ok, c'est une fille, mais tout ce qu'on associe, c'est la douceur, la gentillesse, je sais pas, genre la cuisine, les poupées, j'ai pas envie qu'elle ait ça. Et c'est très compliqué parce que c'est tellement ancré que parfois même dans les crèches ou les écoles, ça reste vachement. J'ai eu acheté des bodys qu'on avait acheté, je sais pas, jusqu'aux 6 mois, et on s'est dit après, en fonction de fille ou garçon, peut-être on aura envie, ou la taille du bébé, j'en sais rien. Et du coup, j'allais dans les magasins, et je demandais où est-ce que vous rangez les trucs. À chaque fois, on te demande fille ou garçon, et les jouets, c'est pareil, enfin, tout est hyper stéréotypé, tout est très séparé, et je trouvais ça compliqué en fait, et j'avais beaucoup d'appréhension. On a trouvé une crèche qui est finlandaise, du coup, qui applique une approche quand même assez nordique au niveau de l'éducation, donc ça, c'est assez gommé. Mais ça n'empêche que les gens qui ont mis leurs enfants aussi ont leurs propres stéréotypes ou leurs propres trucs. Et il y a des fois, c'est très, très calé, quoi. Genre, je me souviens d'une des copines d'Héloïse, qui est trop mignonne, qui est venue à l'école. Elle était toujours, genre, elle avait des boucles d'oreilles, des bijoux, des colliers. Elle avait déjà son petit sac en bandoulière et elle avait des micro-talons sur ses chaussures, tu vois. Et ça, pour moi, c'était un truc, genre... impossible, on fera pas ça à ma fille. Et dans la crèche, je n'arrêtais pas de lui répéter, ah, oh, mais c'est génial, mais toi t'as des yeux magnifiques, plus tard tu seras Miss Monde. Non, non, plus tard t'auras un prix Nobel, tu seras pas obligé de miser sur ton physique. Du coup, c'est assez compliqué pour Vincent et moi parce qu'on se dit, ok, on veut qu'elle grandisse en tant qu'individu, pas parce que c'est une femme ou un garçon, mais juste parce qu'elle est elle en fait. Et qu'elle soit pas obligée de se sentir, de rentrer dans une norme qu'une société qui en plus c'est pas vraiment la nôtre lui impose. Donc cette crèche, elle me rassurait parce que déjà, ça met une sorte de barrière, même s'il y a encore des trucs. Mais je pense qu'on va pas rester. Et entre autres à cause de ça, parce que maintenant qu'on a un enfant, on se dit dans quel monde elle va grandir, mais même pas qu'au niveau du féminisme, c'est la façon dont est structurée la société, c'est que reste une espèce de bulle qui est complètement fausse, où t'as vraiment des niveaux de gens qui se côtoient ou pas en fonction de ta thune et de ta richesse. Et je trouve ça très très bizarre, quoi. Un truc bête, mais dans notre immeuble, le mec qui faisait le ménage dans le couloir, partout, etc., quand tu viens et tu prends l'ascenseur aussi, il veut pas monter avec toi. T'es là genre, pourquoi ? Enfin, alors ok, si t'as des milliards de cartons, ok, mais là, enfin, je veux dire, j'ai juste moi, ma fille, une trottinette, il y a largement la place, on pourrait mettre un canapé, enfin, non, monte avec nous, enfin, Et je trouve qu'il y a une sorte de stratification, un peu comme s'il y avait des castes, en fait. Mmh. Et ça, c'est un truc, encore plus, je crois, que le féminisme, que je veux pas qu'elle imprime et qu'elle ressente. Je trouve ça sinon trop, trop affreux de se dire cette espèce de racisme par nationalité, de t'es philippin, t'es indien, t'es pakistanais, t'es sri-lankais, oh, bah, t'es pas au niveau d'un américain ou d'un anglais, quoi. Je trouve ça compliqué. Si en plus t'es une femme, tu perds. Enfin, c'est comme si t'as un système de points, en fait. T'as les points par rapport à la nationalité, ensuite t'es homme-femme, et ensuite t'as le niveau de job. Et je trouve que c'est... ça existe un peu partout, mais là-bas, c'est tellement assumé. Mmh. Et c'est tellement... pas revendiqué, mais ils le font, ils ont aucun problème avec ça. Que ça devienne une sorte de norme et on a peur qu'elle devienne pourrigatée. Donc si tu veux, entre ça et le super genrification, ça nous plaît pas trop. Donc pour l'instant, ça va parce qu'on gravite dans un milieu où nos potes pensent un peu comme nous. C'est un peu international, mais en même temps, ils sont vraiment à la cool. Mais genre l'adolescence tabac, par exemple, ce serait hors de question, quoi. Genre, si on était resté plus longtemps, je pense qu'on serait parti pour ces 5 ans max, parce que là, déjà, on se dit, c'est bien pour l'anglais, pour plein de trucs, mais non.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Beaucoup moins de sommeil, des plus grosses cernes. Je trouve que tu m'oublies beaucoup plus qu'avant. Et je me suis surprise à ça encore il y a pas longtemps. On était dans notre jardin sur la terrasse, au calme, dans les petits oiseaux, en train de prendre le goûter. J'avais fait 2 tartines de pain et de nicciolata. Et en fait, je sais plus, j'ai commencé à en croquer. J'ai fait, oh, mais il y a un peu moins de nicciolata sur celle-là, il faut que je lui laisse, tu vois. Non, mais en fait, c'est pas grave, elle s'en fout, puis elle en a quand même. Et puis sinon, on en rajoutera sur l'autre. Et cette espèce de moment où tu veux absolument donner tout le temps le meilleur pour ton gamin et tu t'oublies un peu et tu dis, mais non, moi aussi, j'ai le droit de bouffer plein de nicciolata si je veux et à la cuillère si j'en ai envie, quoi. Du coup, ça, c'est un côté où je me dis qu'il faut faire attention. Je trouve qu'on bascule vite dans une sorte d'excès où on donne tout, encore une fois, à la société qui dit aux femmes que, donc à combattre. Mais sinon, je trouve que ce que ça a changé, c'est je suis beaucoup plus patiente qu'avant. Je pensais pas que j'en serais capable, mais je suis beaucoup plus patiente. C'est pas encore ça, mais je suis quand même vachement fière de moi. Ça, c'est pas mal. Et après, en fait, ça a tout chamboulé parce que comme ça m'a fait perdre mon job. Je le vis pas comme c'est la faute de ma fille, mais c'est lié à sa naissance. Ça va vraiment avec. J'aurais pas été enceinte, j'aurais été là. Ce qui m'ont entre guillemets reproché que je pouvais pas faire parce que j'étais pas là, en fait, j'aurais pu le faire. Et du coup, ils auraient trop envie de me virer, mais ils auraient pas pu utiliser ça comme genre, oh, c'est pas grave, de toute façon, elle va rester avec son bébé. Encore une preuve de féminisme, enfin anti-féminisme. Et du coup, elle m'a obligée aussi du coup à revoir ma carrière professionnelle. Et du coup, je me suis rendu compte que certes, je voulais pas être H24 avec elle, mais que j'aimais quand même passer du temps avec elle. Et que je voulais un boulot qui me permette de gérer mon temps comme je voulais. Donc là, c'est poser la question de qu'est-ce que je fais, est-ce que je retourne en RH, en sachant qu'ils m'ont vraiment dégoûté parce que, enfin, virer pendant un congé mat, je trouve que tu peux rien faire de pire. Après, si la personne ne bossait pas, ne faisait pas, voilà, mais quand tout se passait bien du jour au lendemain, c'est un peu dur. Je me suis dit, ok, bon, bah là, de toute façon, j'en ai marre, je vais faire une pause, et je me suis remise à faire de la photo, et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, mais en fait, peut-être que j'aurais besoin d'un truc un peu plus créatif. Et comme j'avais rien à faire et que de toute façon j'étais encore un peu déprimée, je voulais pas reprendre une activité tout de suite, je voulais d'abord me sentir bien, j'ai juste commencé à faire des trucs pour moi et j'ai aidé comme ça à droite à gauche des gens. Et en fait, à un moment, moi, ils me disent, tu sais que ça pourrait être ton job si t'avais envie, parce que tu te sors vraiment bien et il faut juste que t'aies plus confiance en toi et ça se fait en freelance, en fait, tu peux. Et du coup, bah, ça a changé mon rapport au travail et de me dire qu'en fait, je voulais surtout pas donner ma vie à une entreprise, que je voulais pas donner tout mon temps non plus. Je voulais être le plus possible maîtresse de ce que je fais et vraiment apprécier mon job et surtout bosser avec des gens uniquement qui je crois qui partagent mes valeurs. Donc là, les clients que j'ai, c'est que des gens où je sais à 100%, 2000% qu'on partage les mêmes valeurs, on a la même éthique et ça, c'est hyper important pour moi. Donc je pense que vraiment le rapport au travail, qualitativité des choses, genre je vais plus vers le qualitatif que le quantitatif de manière générale, quoi. Donc ça, ouais.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mm-hmm. C'est quoi pour toi être une maman aboudhabienne ?
C'est être une maman expat, donc ça veut dire que t'es pas vraiment chez toi, mais tu t'y fais quand même. Et que tout ce que tu prévois en tant que parent doit être facilitateur de voyage. Parce que tu rentres tous les ans, nous on bouge beaucoup aussi pour visiter la région ou les autres endroits, et du coup tout est choisi pour voyager. Donc je sais pas, son coffre à joints en fait c'est une valise, et le jour où on part on la referme et puis c'est déjà fait. Notre poussette c'est une yo-yo parce qu'elle se plie hyper facilement, que l'un ou l'autre on se retrouve à faire des trajets tout seul, c'est facile. Et c'est aussi du coup être dans un milieu assez international et pouvoir offrir en fait à ton enfant des tonnes d'approches à des cultures différentes. Donc t'es déraciné, mais en même temps t'as une ouverture qui est assez grande et ça c'est cool. Et c'est être aussi tout le temps dehors parce qu'il fait beau 8 mois sur 12 et du coup t'es tout le temps dehors avec ton gamin et ça c'est cool.
Quel est ton endroit kids friendly préféré ?
Bah, la piscine de chez nous elle était vachement bien. Dans chaque résidence t'as des piscines et ça c'est super chouette parce que les gamins ils adorent. Sinon j'aimais bien aller au Louvre parce qu'en fait c'est un espace qui est hyper grand, qui est super beau, qui est protégé du soleil avec une lumière magnifique, donc rien que pour aller courir, regarder, c'est vachement chouette. Ils ont fait un petit musée des enfants qui est très cool. Et après sinon t'as un café qui est très chouette qui s'appelle The Third Place. En fait c'est bio, c'est cool et ils ont l'habitude d'avoir des familles où t'as des gamins qui foutent le bordel mais tout le monde s'en fout et même les gens qui sont là pour bosser sont cool, donc ça c'est pas mal.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, se prévient en famille, c'est facile parce qu'on va quitter Abu Dhabi dans pas très longtemps, donc on est en période de transition. L'idée, c'est potentiellement de revenir en France, ou d'aller en Suisse ou au Japon, plus particulièrement en France, je pense, d'habiter dans notre maison en Bretagne et puis nous faire une transition là-bas. Et mes projets pour moi, c'est de continuer à développer ce que je fais, essayer de vraiment y mettre encore plus à fond et me faire plus confiance parce que quand j'y vais, en fait, ça marche bien. Donc j'aimerais vraiment bien en vivre. J'aimerais bien aussi, j'ai fait ça pendant une période, mais je suis pas régulière, je fais du yoga tous les matins. Et en fait, ça me fait un bien fou, donc j'aimerais bien essayer de retrouver cette routine. Une fois que c'est lancé, c'est bon, mais il faut juste que je m'y remette, ça fait un bien, mais genre, c'est génial. J'ai pris des cours de japonais quand on est arrivé à Abu Dhabi, pour te dire à quel point j'avais pas du tout envie d'installer là-bas, j'étais vraiment prête pour le Japon. J'aimerais bien reprendre parce que ça m'a beaucoup plu. Et refaire du surf parce que ça me manque. Et puis, si on peut, on aurait peut-être bien faire un deuxième bébé, donc c'est mis pour moi, mais pour la famille. À voir.
Merci beaucoup, Sora.
Merci.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Soa, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 35 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire dans le podcast Le Tourbillon. À très vite!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.